Bonjour les spotters. Le décryptage hebdo de l'actu numérique.
Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et aujourd'hui, je vais rebondir sur un thème en ce moment qui arrive un petit peu partout, sur la question de la souveraineté et qui a été matérialisé par une tribune de Tariq Krim, très inspiré en ce moment Tariq, et qui a écrit « Le cloud souverain est dans une impasse ». Alors pour lui, pourquoi c'est dans une impasse? Parce que c'est question du cloud souverain. Un, il n'y a pas d'entraide entre les acteurs, ça se tire même plutôt dans les pattes, contrairement justement à ce qui se passe par exemple dans le monde de la French Tech, où là il y a beaucoup plus d'achats croisés. Acheter français, c'est inaudible, et c'est vrai que du coup, est-ce qu'on dirait, bon, parce que c'est français qu'on achète des trucs, bah, c'est pas tellement l'esprit. Il y a un risque, et là, évidemment, je crois qu'il faut le dire, énorme autour d'une French Tech nationaliste, hein, le retour des souverainistes hein, qui prennent la parole et préemptent un peu ce sujet qui dépasse normalement les clivages politiques. Mais là, hop, ils l'accaparent, et ça fait d'ailleurs pas mal d'esclandres. Hein, il y en a eu récemment dans un événement. L'autre point, c'est que les lois sont pas assez fortes hein, pour transformer ça. Et puis enfin, une espèce de cynisme ambiant, nous dit Tariq, qui amènerait tout ça dans une impasse avec des gens qui jouent pour et contre. Ah, ça, ce qui est souvent un peu le cas politique. Et alors, il n'a pas tort hein, sur l'analyse un petit peu des éléments. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il faut faire quand on est dans une impasse, normalement, et qu'on fait quoi? On fait machine arrière. Alors moi, je ne suis pas sûr qu'on soit dans une impasse. Moi, je pense qu'on est plutôt, comme on dit, à la croisée des chemins parce qu'il y a un peu une réinvention. Alors lui, il propose d'ailleurs, si on est à la croisée des chemins, c'est de prendre le chemin de la résilience, appeler ça la résilience, sortir de la souveraineté numérique. Il n'a pas tort. Hein. Moi, j'étais même aussi sur une approche, je voulais plutôt parler au départ d'autonomie stratégique et de rééquilibrage de marché, de diversité, et ça, quand on parle de diversité, on pense question homme-femme, mixité, autonomie stratégique, on pense tout de suite, alors on a des missiles, enfin voilà, c'est compliqué. Le terme souveraineté numérique est resté, d'ailleurs il est même été jusqu'au, sur le titre du ministre. Donc voilà, donc là il y a une question, on va dire, sémantique, on ne va pas rentrer dans le débat sémantique. Toujours est-il que ce mot de souveraineté numérique, du coup moi je considère qu'il reste quand même un petit peu celui qui parle aux gens, voilà, et qui explique le problème. Je rappelle le problème d'une domination américaine qui fait que, effectivement, non seulement on perd des parts de marché, on ne peut pas grandir, on se paupérise, notre culture n'est pas forcément mise en avant et on ne peut pas décider de ce qu'on veut parce qu'effectivement, on est dépendant d'autres acteurs. Voilà, c'est ça pour moi le paquet cadeau et qu'il faut rééquilibrer les marchés. À chaque fois, je reviens là-dessus, c'est pas contre les GAFAM, c'est avec les GAFAM, mais pas que avec les GAFAM. Voilà. Et alors moi, je vais plutôt vous parler justement de si on dit, mais si ce n'est pas une impasse et que c'est un chemin, c'est quoi? En fait, c'est une histoire. Hein. L'histoire, pour moi, elle se construit on va pas revenir aux 40 grecs, mais déjà sur une trilogie. La première période, c'est effectivement plutôt celle effectivement des pionniers de la tech dans le web et qui savaient, ou plutôt qui ne pouvaient pas faire autrement, parce qu'il n'y avait pas l'open source, il n'y avait pas le cloud, ils ne pouvaient pas construire de la tech sans faire de la tech. Voilà, ça, c'est la première époque. Donc du coup, faire de la tech, faire du business avec la tech, c'était faire tout simplement de la tech. On ne pouvait pas faire sans. Et il y a eu le deuxième temps, une fois que l'open source et les clouds sont arrivés, où en fait, on peut faire du business sur la tech. Lancer un super projet basé sur les clouds, et en particulier ceux qui ont beaucoup profité de ça, c'est les hyperscalers. Et vous prenez un peu d'open source, un hyperscaler et une boîte, une équipe maligne qui a compris qu'il y avait un marché, un besoin, et paf, vous avez des pépites qui peuvent grandir, alors qu'en fait, elles ne fabriquent pas de la tech, elles fabriquent de l'usage sur la tech. Alors, c'est bien de faire de l'usage sur la tech, c'est d'ailleurs ce que tout le monde attend, sauf que la valeur, à un moment donné, c'est le fait d'avoir la carotte complète et pas juste le petit sucre qui est sur le gâteau. Vous voyez, ça, c'est le point. Donc ça, c'était l'âge des business. Et les licornes, c'est beaucoup ça, en fait. Des gens très business qui arrivent à justement faire des belles croissances. Par contre, ils ne détiennent pas la tech. Ils ne détiennent pas la tech. D'ailleurs, quand on leur dit, d'un point de vue normatif, « Oh, il faudrait bouger là, dans ta tech parce que tu n'as pas le droit pour telle norme d'aller ici. » Je prends l'exemple de Doctolib, qui est une magnifique réussite française. Ils disent « Oh là là, c'est beaucoup, c'est compliqué. On n'aura pas ce qu'il faut en dessous. » En gros, ils n'ont pas la tech en dessous pour le faire. Ils s'appuient sur la tech d'un autre. Voilà. Et en parallèle de ça, de ces moments-là, il y a eu justement, j'aimerais dire depuis un petit moment, non, la résistance à cette souveraineté numérique. Et comme toujours une résistance, hein, bah, elle est mal organisée, elle est dispersée. C'est là où on retrouve une résistance qui, par exemple, va être sur le fond plutôt économique, une autre sur le fond culturel, une autre sur le fond politique. Et c'est là qu'on va voir, par exemple, les souverainistes revenir par la porte ou par les fenêtres. Et donc, elle est multiple, elle peut être désorganisée. Moi, vous savez, souvent, j'ai essayé, par exemple, de créer des groupes avec Play France, avec les Fabulous Eight, avec Eiffel. Enfin, souvent, j'ai essayé de rapprocher, voilà. Et puis, bon, c'est pas simple, parce que comme à chaque fois, des gens qui ont des intérêts qui peuvent être divergents, eh ben, du coup, ça converge pas forcément. Donc, souvent, comme je dis, cette résistance, elle est moins shiny que les trucs très organisés, très top-down, etc. Donc c'est là où on en est. Pour moi, on en est là. Et donc, pour moi, le quatrième opus, c'est celui de la renaissance. C'est-à-dire que maintenant qu'on a compris qu'il fallait faire de la tech, maintenant qu'on a compris que justement, par les usages avec la French Tech, par exemple, on avait des magnifiques boîtes qui pouvaient grandir, bah, il faut réunir les deux, repartir du socle industriel, rajouter de l'usage par-dessus, et tout simplement là, on aura des boîtes qui vont conquérir justement des marchés, rééquilibrer tout simplement, encore une fois, les marchés avec les GAFAM. Et là, pour moi, il y a un mouvement d'ailleurs là qui est très frais pour moi dans le paysage, qui est « je choisis la French Tech ». Alors, pourquoi je le trouve très frais ? Parce que, d'abord, c'est le dernier, donc en général, quand on fait un nouveau truc, on a plein d'élan. Mais deuxième chose, il vient par la French Tech, donc il est poussé par justement ce côté très, ce que j'appelle shiny, qui marche, qui est marketing, qui fait du storytelling, qui est très puissant. Il est soutenu par l'État. Hein, faut pas oublier que le gouvernement soutient très fortement la French Tech. Et il incorpore « je choisis ». C'est-à-dire qu'il incorpore cette idée de la commande. En fait, c'est quelque part la commande, et pas que publique, de manière générale, l'idée d'un écosystème qui construit. Et là, on voit effectivement ce que ça a comme programme. C'est effectivement sortir du fait qu'il n'y a pas d'entraide entre les acteurs, faire que les grands groupes rachètent effectivement des boîtes de tech qui sont effectivement French Tech, donc locales. Voilà. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment super. D'ailleurs, j'étais à un événement à Station F lundi dernier et franchement, bah, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de nouveau qui venait vers là. Donc, je trouve ça super. Voilà. L'IA est un bon exemple, hein, d'ailleurs, de ça. Hein. Par exemple, si on prend l'IA, on dit « Ah là là, mon Dieu !» Alors, je me rappelle, il y a 2 ans, oui, il faut arrêter le cloud, il faut attaquer l'IA. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de boîtes qui ont été dans l'IA. Mais quoi? C'est quoi l'IA, en fait? C'est des services. Ça, on est très bon pour faire des services top. Ah oui, les Alan, les Doctolib, super bon. Vous descendez d'un cran, il faut des modèles. On est très bon aussi. On a plein de modèles qui viennent de nos labos, etc. Puis il faut descendre d'un cran, tout ça, il faut les faire tourner sur des machines. Et là, c'est de machines, ça coûte trop cher. Et voilà. Le cloud, là, on n'a pas cette capacité. Et vous descendez au niveau hardware, alors là, on n'existe plus. Donc c'est là où il faut se dire que la stack, il faut l'élargir. Il faut plus de cloud, plus de hardware pour que, par exemple en IA, les modèles soient poussés par des boîtes. Et là, je ne doute pas qu'il y aura plein d'innovations de plein de boîtes qui seront formidables. Moi, j'en ai encore rencontré une. J'ai fait un call avec une boîte, la française. Ils ont fait un front magnifique pour faire de l'IA. Et, par contre, derrière, ça tourne évidemment sur Amazon. Ça a été plus vite. Donc, s'ils avaient eu un truc en local, ils l'auraient pris. Ça aurait coûté moins cher. Et en plus, ils auraient pu justement encore plus tamponner parce qu'ils ont une approche européenne. Donc, on voit bien que là, le moment, le tournant, il est où en fait? Le tournant, en tout cas, si justement dans cette impasse ou ce tournant, qu'on prenne un peu de marche arrière ou qu'on bifurque à gauche ou à droite, bah, c'est justement, ne pas aller dans les sirènes que souveraineté numérique égale souverainisme égale justement les forces de l'extrême qui nous renferment, qui veulent renfermer notre sujet, qui veulent trouver des boucs émissaires, qui sont souvent d'ailleurs pas forcément fun, parce que justement, ils considèrent que le monde nous en veut, etc. Alors, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de renouer justement un dialogue équilibré avec nos partenaires de toujours, dont les Américains. Donc, il faut s'ouvrir, il faut devenir plus fort. Voilà, c'est ça l'ambition. Et pour ça, effectivement, on a quand même besoin du soutien de l'État, qui, avec Je choisis la French Tech, le fait. On a besoin justement des lois. On n'en a pas parlé, on est en pleine LSREN. Mais justement, je ne prends pas trop la parole. J'attends que la loi soit finie pour en parler, parce que là, il y a des amendements en plus, en moins, etc. On verra si l'amendement 10.A tombe de tel côté, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont en train de se faire, mais je préfère attendre pour pouvoir juger. Donc la loi qui vient aider, mais aussi c'est un mental de l'écosystème d'aller de l'avant. voilà, et donc d'être positif. Donc moi, en tout cas, c'est ça que je vois aujourd'hui sur cette question de souveraineté numérique. Elle est justement pour moi, moi je sens plutôt des good vibes, mais il faut vraiment abandonner les passions tristes et il faut faire attention à ceux qui nous tirent justement dans des querelles et dans des trucs un peu négatifs qui seraient le rejet de l'autre à tous les niveaux. La France contre l'Europe, la France contre les États-Unis, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est justement tout simplement faire grandir notre écosystème en se faisant respecter. Ce qui est, c'est là où effectivement il y a un rapport de puissance qu'il faut qu'on installe. Voilà, c'est tout. Mais la puissance n'est pas justement le repli, n'est pas le refus, n'est pas le rejet. La puissance, c'est s'affirmer avec nos valeurs et avec ce qu'on fait de meilleur. Et c'est ce que, justement, je vois, moi, toutes les boîtes, là, en ce moment, autour de moi, sont en train de faire. Et en plus, si je finirais là-dessus, on est dans un moment où, d'une certaine manière, le modèle de la surfinanciarisation des boîtes de notre secteur est un peu à mal. Ça tombe bien, l'Europe, elle n'est pas la plus riche par rapport aux États-Unis. À l'inverse, on a justement un formidable capital humain, des ingénieurs, comme on dit, mais aussi des businessmen, des marketeurs, des UX designers incroyables qui peuvent de manière très frugale sortir des produits de dingue. Et voilà, simplement, il faut avoir en tête, il faut sortir des produits de dingue du sol au plafond, du hardware en passant par justement l'OS, les bases de données, le PaaS, le software as a service, jusqu'au B2C consommateur final. Voilà, il nous faut toute la stack. C'est ça l'enjeu. C'est rééquilibrer un marché qui est aujourd'hui beaucoup trop cintré. On a beaucoup, beaucoup de SaaS très end-user, voire B2C, et on n'a pas assez aujourd'hui de gros costauds. Et donc, dernière bonne nouvelle, quand moi j'entends un des costauds justement du numérique dans notre secteur qui s'appelle Xavier Niel dire « Moi, je veux devenir le leader sur finalement le cloud en France pour dépasser OVH », eh bien moi je me dis « Eh bien c'est bien parce qu'en fait on va voir OVH, lui et nos amis d'Outscale avec NumSpot, donc les trois on va dire, DocaPost avec NumSpot, on a également donc Scaleway Free et on a OVH qui vont se battre justement, et on a trois champions, mais c'est super parce que va y avoir justement de la compétition et ça va tirer tout le monde vers le haut. Donc moi je suis très content qu'il y ait autant d'énergie et de dynamisme, et quand on connaît ce qu'a fait Xavier Niel en général dans les secteurs, il les a dynamités, boostés, transformés. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle, même si à mon avis ça va secouer, parce que quand Xavier arrive quelque part, ça secoue, donc ça va secouer, et bien c'est ça qui est sympa dans notre monde numérique. Il y a toujours des surprises. Et voilà, et je vous dis à la semaine prochaine.